Nous sommes trois professionnels de l'éducation du Conseil scolaire Viamonde. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK, en effet, nous avons toute la classe. Suivez-nous dans notre deuxième saison afin de poursuivre des conversations sur de nouveaux thèmes en éducation, tels que la réponse à l'intervention,
le bien-être,
les sciences,
les maths
et bien plus encore.
Bonjour et bienvenue sur un autre épisode dans la série sur la réponse à l'intervention. Aujourd'hui, on va parler du décloisonnement. C'est un élément essentiel de la réponse à l'intervention et nous avons toutes vécu ça l'année dernière dans les écoles qu'on accompagnait. Alors moi dans une école, puis Mylène dans plusieurs. Vicky dans plusieurs écoles?
Deux
écoles l'année dernière. Et vraiment, c'était c'était une expérience très positive qui a beaucoup apporté. Alors, on trouvait ça important de vous en parler aussi. Et en gros, le décloisonnement, c'est de créer des groupes homogènes dans l'école où tout le monde, dans toute l'école, travaille dans leur zone proximale en même temps.
En décloisonnement, on enlève les cloisons. C'est la définition de moi.
Excellent. Et Mylène, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que ça se repose vraiment sur 5 questions et 4 principes, quelles sont les 5 questions qu'il faut qu'on se pose avant d'entamer le décloisonnement?
Bien, quand on se lance au niveau du décloisonnement, on veut savoir qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent. Quels sont les apprentissages essentiels qu'on a besoin? On veut savoir aussi comment est-ce qu'on va faire pour savoir si l'élève a appris. Alors, c'est tout ce qui est par rapport à l'analyse de données, n'est-ce pas? On veut voir... Okay. Puis c'est un grand lien avec les critères de réussite aussi. Qu'est-ce qui va me dire que j'ai appris? Quand ça, c'est fait, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ont appris? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas appris? Puis quand tout ça est fini, on veut se poser la question, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Toute l'idée de la pratique réflexive par rapport à ça.
Puis une des choses que je pense qu'on avait remarqué vraiment, quelque chose qui avait changé le climat de nos écoles, c'était l'idée de la responsabilité collective. Vicky, qu'est-ce que toi t'as remarqué dans ton école? Comment est-ce que ça joue dans le décloisonnement?
Je l'ai vécu dans deux écoles, une qui est de taille plus grande, une qui est de taille plus petite. Ça dépend. Il faudrait que tout le monde, comme on avait dit dans le dernier épisode, il faut que tout le monde embarque. Puis il faut que tout le monde comprenne, se questionne aussi, est-ce que tout le monde devrait regarder un petit peu sa façon de faire. Puis je trouve que dans une grande école, la façon comment on l'avait fait, ce n'était pas d'impliquer toute l'école, c'était d'impliquer par niveau. Ce qui est... Vous pouvez me corriger. Avec la taille de l'école que j'avais, c'était vraiment une des seules façons que je pouvais le faire. Mais est-ce que ça respecte vraiment le décloisonnement? Qu'est-ce que vous pensez? Tandis que dans une petite école, nous autres, on avait seulement 2 classes. Alors ça, c'était vraiment facile de les organiser. Mais dans une grosse école avec 3 classes ou 4 classes par niveau, je pouvais le faire par niveau et non pas par... à toute l'école.
Non, moi, je trouve que ça marche parfaitement parce que l'idée, c'est vraiment de créer des groupes homogènes qui ont un besoin très, très similaire, sinon pareil, et d'impliquer tous les adultes qui sont disponibles, qui peuvent le faire, afin de vraiment répondre aux besoins les plus pressants en lien avec les apprentissages essentiels.
Tu parlais de la responsabilité collective, c'est l'idée que tout le monde met l'épaule à la roue pour la réussite des élèves. Alors que je sois prof de gym, Et ces profs-là a une responsabilité quant à la réussite des élèves en lecture. Le prof de maths a une responsabilité par rapport à l'élève de Vicky en maths. Comme c'est... tout le monde est responsable de tous les élèves à tous les niveaux. Et ça, c'est l'idée derrière la responsabilité collective. Et si on travaille au niveau du décloisonnement, toi, t'es super forte dans l'enseignement de...
d'une stratégie de lecture.
Voilà. Puis moi, je l'ai pas, la patente. Mm-hmm. Mais rien n'empêche que... Parce que toi, t'es responsable de la réussite de mes élèves, mais ces élèves-là ont accès à toi ouais. pour être capable de réussir par rapport à ça.
Puis, désolée, je pense que c'est une des beautés du modèle aussi, c'est que ça change la communauté de l'école. Parce que l'élève ne travaille pas uniquement avec son enseignant titulaire, mais il y a peut-être l'enseignant d'éducation physique qui va prendre un groupe puis travailler dans notre cas, dans la plupart des écoles, c'était la lecture. Puis, dans l'école que moi j'ai accompagnée, on avait une quinzaine d'intervenants et on avait le prof d'éducation physique, on avait la bibliothécaire, on avait, on avait l'animateur culturel, tous les adultes qui étaient disponibles avaient un groupe et puis, mais la responsabilité pour la planification et la préparation des activités, c'était la responsabilité des enseignants. Mm-hmm. Alors, si la personne était non qualifiée, les activités étaient préparées par quelqu'un qui était qualifié.
C'est exactement ça. Puis, juste deux choses que je voulais dire, c'est que si je regarde mon expérience de l'année passée, on voyait vraiment une différence lorsque il y a les autres, comme je vais dire en guillemets, les autres personnes, comme par exemple les aides-enseignants, la bibliothécaienne, le prof de gym, le prof de... ou l'animateur qui tuerait, ça faisait vraiment une grosse différence si il embarque ou non. Parce que si on reste seulement dans notre personnel disponible, qui est seulement les enseignants, si on se restreint seulement aux enseignants titulaires, c'était vraiment difficile à mettre en place. Parce que premièrement, il va nous manquer des ressources parce qu'on aimerait ça avoir le plus de groupes possible.
Oui, des petits groupes.
Des petits groupes. C'est exactement ça. Puis tu voyais que ça faisait... Les élèves, ils voyaient ça comme une autre leçon. Ils voyaient ça comme une autre activité. Puis ça faisait vraiment une grosse différence si les autres intervenants embarquaient ou non. Deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que je voulais faire un lien avec la responsabilité collective, puis l'engagement des autres personnes avec notre conversation qu'on a eue avec Steve, en disant que, tu sais, lui, il avait dit comment que les élèves, eux autres, ils s'identifiaient avec d'autres personnes, pas seulement avec leur enseignant titulaire, lorsque eux autres, ils créent un lien avec d'autres personnes, ça vient travailler beaucoup le climat de classe et le climat de l'école. Alors, ça revient renourrir qu'est-ce qu'on aimerait ça travailler aussi.
Et en plus, nos élèves qui ont des problèmes de comportement sont très, 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 très souvent, majoritairement, des élèves avec d'autres difficultés, surtout des difficultés d'apprentissage, des troubles d'attention. Et ce qu'on évite avec le décloisonnement, c'est le stigma. Mm-hmm. Parce que au lieu d'être avec l'enseignante ressource qui prend toujours les élèves en difficulté, je pourrais être avec l'animateur culturel qui travaille avec tous les élèves de l'école. Alors, c'est pas que je retourne en première année, puis je suis nécessairement, si je suis en troisième année et je suis en grande difficulté, je vais pas nécessairement aller avoir l'impression de régresser, puis d'aller travailler avec une enseignante à un niveau
comme
plus
je retourne
bas.
En première année.
Oui, comme c'est je retourne ça. En première année. Et si c'est le cas, je recommande au moins qu'on change de local. Mmh. Alors, si l'enseignant de première année va prendre les élèves avec le plus de difficultés, au moins ne les envoyez pas dans la classe de première année. Envoie-les dans un coin en haut de l'escalier ou dans la bibliothèque ou quelque chose comme ça.
Ouais. Ce que disait Vicky tout à l'heure par rapport aux tailles de l'école, j'ai vécu ça dans mes écoles. J'ai une école qui est super grande, puis j'en ai une qu'on n'a presque pas de prof. Mais dans l'école qui est très grande, on a décidé de s'arrêter tous en même temps puis de faire du décloisonnement à très grande échelle. Mm-hmm. Comme le cycle primaire, le cycle moyen, tout le monde s'arrêtait. Fait qu'il y avait comme 12, 13 interventions qui roulaient en même temps. Mm-hmm. Puis, fait que là, on est allé à grande échelle. Mais quand on fait ça, généralement, on... Parce que l'idée ultime, c'est de travailler en petit groupe en fonction de besoins spécifiques. Mm-hmm. Plus le groupe est grand, plus les écarts deviennent grands à l'intérieur de ce groupe-là. Et puis, comme c'est mathématique, si j'ai 3 profs qui ont chacun 20 élèves, ça fait 60 en tout. Mais si j'ai juste intervenant, bien, ça reste 20 élèves par prof pour le décloisonnement. Mm-hmm. Fait que si on ajoute des intervenants, on peut se permettre d'avoir des groupes plus petits. Puis j'ai beaucoup aimé aussi l'idée de travailler par cycle. Tu sais, tu disais les premières ensemble, les deuxièmes ensemble. Parce que par cycle, j'avais l'impression que cet écart-là était réduit aussi. Parce que quand on travaille avec de la première, deuxième, troisième année, l'élève qui est en troisième année, qui veut travailler la conscience phonologique parce que c'est pas acquis, a déjà les sons simples, a déjà les certains sons complexes, tandis que les élèves de première année ou deuxième année qui n'ont pas encore acquis la conscience phonologique, bien, pour eux, sont probablement soit au son simple ou au son... ce qui fait que quand tu veux planifier tout ça, plus ton groupe est grand, plus tu as des écarts à gérer.
C'est ça. Puis j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que, en fait, moi, comme enseignante, je l'ai déjà vécu, le décloisonnement. Puis dans cet exemple-là, on embarquait tous en même temps, puis on était, je pense, 9 ou 10 classes, puis avec, comme tu dis, exactement, avec 12 ou 13 intervenants, puis parce que tout le monde embarquait en même temps. Fait que d'après, juste pour, pas pour résumer, mais en même temps, le message que j'ai reçu, c'est que, en fait, toutes les formules sont bonnes, en autant que ça fonctionne, puis en autant que tout le monde. On est d'accord sur l'aspect de ce qu'on appelle la responsabilité collective.
Puis que ça respecte le profil de l'école.
Exactement, ouais. Exactement.
Et je pense que c'est un commentaire qui nous est revenu. Je sais que toi, Mylène, dans tes écoles, tu avais eu le même commentaire, que les enseignants, oui, c'est de la planification qu'il faut faire, mais il faudrait quand même planifier quelque chose pour ces 20 à 30 minutes de toute façon, oui, pour ta classe. C'est pour ta classe, soit c'est pour ton groupe. Ça. Mais que c'était les seuls moments dans la semaine où les profs avaient un groupe devant eux où tout le monde avait le même besoin.
Oui.
C'est reposant. C'est plus facile.
Ouais.
Au lieu d'essayer de différencier pour, tu sais, 4 niveaux différents,
ouais,
tu as un groupe devant toi, ouais, qui a vraiment le même besoin.
Tu faisais juste, ouais, une activité, tandis, mm-hmm, que quand t'as plusieurs niveaux dans ta salle de classe, mais là, t'es toujours en train de penser comment est-ce que je vais différencier. Tandis que si tu sais que tous ces élèves-là ont exactement le même besoin, tu faisais juste, ouais, une activité.
Et ça, je pense que ça nous amène à un autre des principes, des 4 principes, qui est les évaluations convergentes. Parce que si on veut créer des groupes homogènes,
mm-hmm,
il faut, ouais, que tout le monde ait les mêmes attentes puis la même idée de qu'est-ce que c'est qu'un élève qui a maîtrisé telle chose.
Mm-hmm. Puis je pense que, tu vois, l'année passée, bon, on était en apprentissage par rapport à la mise en œuvre du décloisonnement, fait qu'on a fait des erreurs, puis on s'est relevé, puis on a rectifié tout. Mais au départ, notre première fois, on s'était lancé sans évaluation convergente.
Mm-hmm.
On s'était lancé en fonction de notre connaissance des élèves. Alors, qui, selon nous, a besoin de l'apprentissage essentiel X, Y, Z? Et puis là, on s'est rendu compte que, hop là, des fois, on tire complètement dans le champ. Des fois, on pense que l'élève est là, mais que finalement, non. Fait que là, on veut pas qu'il perde de temps. Fait qu'il y a des changements de groupe en, mm-hmm, cours de route, ce qui fait qu'au niveau de la gestion, ça devient
difficile, mais ça aussi, c'est un des principes, c'est,
oui,
qu'on peut toujours changer les élèves de groupe.
Absolument, oui, absolument. Oui, oui. Mais je pense qu'on aurait été beaucoup plus efficace si on était parti avec l'évaluation convergente,
mm-hmm,
on avait fait l'harmonisation de l'évaluation de tout ça, et que par la suite, on avait été à répartir les groupes.
Mm-hmm.
J'ai eu la chance, et ça, c'était une expérience là, en or, dans une école, les profs de 4, 5, 6 avaient fait une version de « à pas de géant en maths », mais en littératie, pour voir, je vais leur faire petite mini-leçon par mini-leçon. Si tu fais les diagnostics de la leçon 1 et que tu as réussi, va faire le diagnostic de la leçon 2. Et tout était en progression.
Mm-hmm.
Alors, puis là, tous ces élèves étaient gérés, alors 4, 5, 6 étaient en train de faire leur décloisonnement un peu partout, tout le monde en fonction de leur propre cheminement. J'étais abasourdie, c'était absolument magnifique. Mais c'est pas ça dans toutes les classes.
Non.
Parce que ça, c'était le modèle qui leur convenait. J'ai vu d'autres écoles aussi où les besoins des élèves est très grand. Alors, pour eux, 20 minutes, c'était pas suffisant.
Mm-hmm.
Il fallait augmenter le temps à l'exposition en travail en zone de zone de proximal de développement. Et j'ai eu d'autres écoles que au niveau gestion, là, au niveau temps de préparation et tout ça, c'était super compliqué. Alors, ils ont réduit la fréquence, mais ils ont augmenté, mm-hmm, le temps.
Oui, 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 oui.
Alors, et ça, c'est un point important qu'on n'a pas encore touché, c'est qu'il y a une fréquence, tu sais, minimum. Tu ne peux pas faire du décloisonnement une fois par semaine, puis penser que ça va avoir un impact.
Mm-hmm.
Alors, on dit que le minimum devrait être 3 fois par semaine.
Mm-hmm.
Et, ouais, une vingtaine, une trentaine de minutes à,
ouais,
chaque fois.
C'est ça.
Oui, parce que tu vois, l'école où c'était 2 fois par semaine, à, comme je pense, 45 minutes, ça fait beaucoup à gérer. Puis pendant ces 45 minutes-là, il faut que tu prévois plusieurs courtes activités parce,
mm-hmm,
que le temps de concentration, ça risque des enfants, là.
Mm-hmm.
Mais non, je trouvais ça intéressant de voir quel modèle fitait avec quel profil d'école.
Mm-hmm.
Fait que ça devient comme comme un Tetris, mais comme les résultats sont tellement positifs que, comme, oui, c'est un peu de travail, là, mais ça vaut tellement.
Et c'est pas juste les résultats, c'était les attitudes.
Ah oui!
T'sais, les élèves oui. demandaient à tous les matins, est-ce qu'on a le décloisonnement aujourd'hui? Les élèves voulaient y aller. Ils trouvaient ça intéressant, tu sais, même amusant, mais parce que l'idée aussi, c'est que les activités soient ludiques, mais basé sur une intention pédagogique en même temps. C'est pas du papier crayon, c'est pas des exercices, c'est pas des fiches de pratique.
Ben, l'idée, c'est que si les fiches de pratique puis le papier crayon avaient fonctionné avec ces élèves-là, il y aurait déjà eu l'apprentissage parce qu'il y aurait été dans le 80% lors de la stratégie universelle. Ça nous dit que ces élèves-là ont besoin de plus.
Mais pas nécessairement parce que c'est tous les élèves.
Oui.
OK. Parce que moi, je pense aux élèves qui réussissent déjà dans les 80%, mais qui sont quand même impliqués dans le décloisonnement. Et peut-être que j'ai juste mal compris ce que tu voulais dire.
Moi, je pensais que ceux qui n'avaient pas... Moi, ce que j'ai compris, c'est que l'élève qui n'a pas compris... Ça, admettons que, je ne sais pas moi, un exemple mauvais, un exemple... Conscience phono, OK? Mm-hmm. C'est celui qui revient souvent. Si l'élève avait compris ou avait acquis la conscience phono quand son prof l'enseignait...
À tout le monde.
À tout le monde, avec des feuilles, papier, crayon. Et que là, tu dois associer la consonne avec la voyelle pour créer une syllabe. Puis que là, il faut que tu tapes dans tes mains parce que le... Bon, il y a plusieurs façons de le faire, là. Mais je te dis, papier, crayon, c'est souvent pas la réponse gagnante, là. Si il avait été dans les 80% à ce moment-là, il serait pas en décloisonnement pour travailler la conscience phono.
Non, c'est vrai. Mais il y a des élèves qui sont dans le décloisonnement pour, comme dans l'exemple de l'école que j'ai accompagnée, les élèves qui étaient déjà à niveau, qui réussissaient même au-delà du niveau. Eux, on avait décidé de faire de l'enseignement réciproque avec eux pour qu'ils puissent mettre en pratique d'autres stratégies qui n'avaient même pas été enseignées encore parce que eux, c'était plutôt enrichissement, mais tout le monde est en train d'apprendre quelque chose dans la période de décloisonnement. Le curriculum viable, parce qu'on a beaucoup parlé d'apprentissage essentiel, qui est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans notre conseil, mais je ne pense pas que c'est le cas dans tous les conseils. Alors, peut-être qu'on pourrait parler un peu du lien entre le curriculum viable et les apprentissages essentiels en littératie puis en mathématiques.
Mais ce que j'aime beaucoup, quand on parle de curriculum, il y a tout. C'est ça, c'est une brique. Puis, on avait suivi une formation avec M. Massé qui nous disait que si on faisait tous les contenus de tous les curriculums, on aurait 36 ans en sortant de l'école parce que ça prendrait tant, parce que c'est super gros. Fait que ce que j'aime dire aux enseignants, que quand on travaille avec les apprentissages essentiels, c'est qu'on a pris le curriculum puis qu'on l'a passé au tordeur. On a gardé que l'essentiel. On a gardé le plus essentiel.
Ouais.
Tout ce qui est nécessaire à être capable de performer. Tout ce que tu as besoin pour être capable de performer dans le niveau suivant. Mais l'idée, c'est que c'est pas juste ça. Si on allait seulement avec l'essentiel, ben ça se peut que ça soit moins agréable à d'autres. Tu sais, comme c'est pas tout le temps le fun d'y aller juste avec l'essentiel. Fait que dans le curriculum, tu as tout ce qui est essentiel, tu as tout ce qui est important, puis tu as tout ce qui est intéressant. Alors, l'essentiel, c'est ce que tu as besoin, comme je disais, pour passer à la prochaine étape. L'important, c'est souvent là où on va faire des liens, là où on va aller voir comment ça marche et tout. Puis l'intéressant, c'est la cerise sur le sundae.
C'est ça. L'enrichissement. Même pas juste
l'enrichissement. Oui, pas nécessairement l'enrichissement.
C'est pas nécessairement ça, c'est vraiment juste... C'est intéressant. C'est
oui,
vraiment,
parce que l'idée de tout, construire là, un terme-là. Terrarium... C'est fun. Oui. Est-ce que c'est essentiel? Mais c'est le fun.
Oui, mais il faut éviter aussi le message qu'on se limite à l'essentiel parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que, OK, ben c'est sur ça que je vais me concentrer. Ben c'est ça qu'on garantit à nos élèves,
c'est
à
ça.
Tous nos élèves.
Exact.
C'est ça.
Alors, si ceci n'est pas encore acquis, on ne passe pas à l'important ni à l'intéressant avec cet élève-là.
Mm-hmm.
Et c'est sur ça qu'on va se concentrer parce que c'est le minimum, c'est vraiment le minimum pour que l'élève passe et ait du succès au niveau suivant.
J'aime vraiment ça que tu précises ça parce que c'est vrai que quand on parle essentiel, ça veut dire le noyau 2. Puis oui, j'aurais peur que les gens se limitent à ça. Tu as raison, tout à fait raison.
Ouais.
Puis le quatrième principe, c'est accès certain. Et ça, je l'aime beaucoup, beaucoup, parce que, tu sais, tout le monde a vécu ça où il y a des parents qui aimeraient que leur enfant soit chez Madame telle-telle parce qu'elle a enseigné la deuxième depuis 20 ans, puis tous mes enfants sont passés par Madame telle-telle et on ne peut pas avoir du succès si on n'a pas Madame telle-telle. Mais... si on a la réponse à l'intervention puis le décloisonnement en place dans une école, ça veut dire que tous les élèves vont recevoir les mêmes interventions. Alors que mon petit soit chez Madame telle-telle ou Madame l'autre, je sais que s'il a un problème en lecture, en conscience phonologique, il va recevoir les mêmes interventions que les élèves dans l'autre classe.
Oui, non, puis tout l'aspect du magasinage de l'enseignante, là, comme... c'est vrai, c'est tellement vrai.
Et ça revient à la responsabilité collective, parce que si je suis Madame l'autre, je sais que j'ai Madame telle-telle qui va m'épauler aussi.
Exactement.
Et qui est là pour partager son expertise avec moi et avec mes élèves.
Ouais. Comme ça, peu importe l'élève, peu importe le groupe d'élèves que je vais recevoir, je vais aller au bout avec l'apprentissage que je devrais enseigner, que je vais enseigner à ce groupe-là, en sachant que mes élèves sont aussi dans un autre groupe, puis il reçoit vraiment l'enseignement dans quelque chose d'autre, d'un autre enseignant qui est aussi compétent, qui veut aussi bien faire, qui est aussi là pour au service de ses élèves.
Puis ça, on remarque qu'en bout de ligne, c'est vraiment gagnant parce que quand on parle d'évaluation convergente, c'est sûr qu'il va y avoir des tableaux de pistage. On va anticiper à la fin du décloisonnement où pourraient se situer mes élèves et tout. Mais quand on s'assoit puis qu'on analyse les tableaux de pistage en fin de décloisonnement, parce qu'on a eu, en tout cas pour moi, j'ai eu quelques séquences de décloisonnement, mais la première fois qu'on s'est assis pour analyser ça puis qu'on s'est rendu compte que les enfants avaient accès au meilleur de chaque prof, et c'était fou. Je sais pas chez vous si c'était flagrant, les tableaux de pistage au niveau de l'analyse de données, mais les profs, ils m'ont dit, puis je cite, c'était plus de travail. Mais la vérité, c'est que c'est pas forcément plus de travail, c'est juste travailler différemment.
Oui.
Mais que les résultats sont tellement flagrants que ça serait criminel que de s'arrêter juste parce que c'est un peu trop de travail. Ouais. C'est un peu de travail. C'est même pas trop de travail.
Mais de toute façon, c'est ça, comme on avait dit tantôt, c'est en fait, c'est pas plus de travail, c'est différemment.
C'est différemment.
Mais, puis d'ailleurs, si on regarde en réalité, c'est moins de travail. C'est ça que...
En bout de ligne,
oui. En bout de ligne, c'est ça que je pense.
Puis avec les normes de profession, on se dit que si tu connais...
on est obligé.
Exactement. Si tu connais l'impact que ça a, tu dois aller pour le meilleur de tes élèves.
Et je me rappelle quand je suis allée, je l'avais déjà mentionné dans un autre épisode, à la conférence du Solution Tree, il y a une dizaine d'années. Ils avaient parlé du fait que, je pense qu'ils parlaient de la quatrième année dans leur école, tous les élèves lisaient à niveau à la fin de l'année avec le décloisonnement. Et je ne les ai pas crus. Je me suis dit, non, exagération, ça ne se peut pas. C'était comme impressionnant, mais j'y croyais pas vraiment. Mais maintenant, ayant vu les résultats que ça peut donner, je peux croire que tous les élèves pourraient faire beaucoup plus de cheminement dans ce modèle que... dans le modèle traditionnel.
Ouais.
Parce que dans le modèle traditionnel, trouver le temps de faire du 1 à 1 ou des mini-conférences ou de la lecture guidée avec tous ces élèves-là à toutes les semaines, c'est difficile.
Ouais.
Mais quand il y a 3 blocs qui sont consacrés à ça dans la semaine et que toute l'école y participe en même temps, c'est garanti que vous allez avoir ce temps-là.
Oui, je trouvais ça intéressant aussi de savoir que par la quatrième année, il n'y a plus de trous. On a comblé tous les trous d'apprentissage, comme c'est quasiment impossible. Mais sachant ça, j'ai le devoir de m'assurer que mes élèves ont accès à ça.
Ouais.
Imagine arriver en quatrième année et tous les élèves sont capables de, au lieu d'apprendre à lire, sont capables de lire pour apprendre. Wow!
Oui, mais il faudrait préciser aussi que là, on parle de nos 95%. Parce qu'il y a un autre 5% qui aurait peut-être un diagnostic. Et puis, ces élèves-là ne vont pas nécessairement atteindre la norme en même temps que les autres.
Oui.
On parle du palier 1 et palier 2 d'intervention. Oui. C'est ces élèves-là qu'on est capable d'amener à niveau.
Oui.
Non, c'est vrai ça. Puis ces élèves, ces élèves-là, il ne faut pas les laisser tomber non plus. Non. Ce n'est pas parce qu'on le sait qu'ils ne vont pas atteindre la norme qu'on va faire « bon, ben toi, tu vas… » Non, non, il faut planifier en fonction d'eux aussi, mais peut-être juste différemment.
Un peu, et puis un peu plus individuellement aussi.
Oui, parce que quand tu es rendu au niveau 3, tu as toute une structure autour de toi. Là.
Exactement. OK, si tout le monde est convaincu maintenant qu'ils devraient faire ça dans leurs écoles, ou au moins parmi leurs collègues au même niveau… Qu'est-ce qu'on leur dirait de façon pratico-pratique sur le processus, sur le comment le faire le plus facilement, le plus simplement? Quelles sont les étapes?
C'est une bonne question. Bien, suivre les 5 questions.
Oui.
Ça d'abord, oui. Ça c'est important.
Cibler l'apprentissage.
Oui.
Mm-hmm.
Aller en fonction des forces.
C'est ça.
Des intervenants. Partir des données.
Oui, là, les données, ça, c'est de l'or, ça.
Oui, et puis je pense qu'on est plus choyé maintenant qu'on l'était il y a 10 ans parce qu'on a des outils qui sont vraiment très, très précis pour nous aider à cibler les besoins des élèves.
Oui, absolument.
Chez nous, c'est le APAT géant en mathématiques et GB+ ou DRA en lecture.
Oui, absolument. Puis ça nous ouvre la porte pour les évaluations convergentes en utilisant des outils comme ça.
Oui, exactement.
Puis nous, dans mon école, la première fois qu'on a créé les groupes des ans pour les élèves, on a commencé avec des grandes feuilles de papier charte. Puis, tu sais, on essayait de faire des groupes, on essayait de trouver des besoins en commun. Et c'était un peu par essai et erreur de trouver où est-ce que je pourrais placer le bon nombre d'élèves. Tu sais, comme si je choisis quelque chose de très, très précis, où il y a juste 2 élèves qui ont ce besoin-là, peut-être qu'il faudrait aller voir c'est quoi un autre besoin de ces 3 élèves-là pour être capable de les placer avec d'autres élèves qui ont des besoins en commun.
Excuse-moi. Non, vas-y, parce que comme tout le monde, on a toujours plusieurs besoins à combler, même nous autres, les adultes. Ouais.
Je pense qu'un des points importants, c'est comme adulte, comme intervenant, comme participant, comme unité là, dans cette grosse machine-là, c'est d'accepter qu'on va se planter.
Mm-hmm.
Que ça se peut que la première fois qu'on se lance avec le décloisonnement, qu'on se rende compte que peut-être que c'était le mauvais moment dans la journée, mauvais nombre de minutes. Puis c'est correct de se planter. Ouais. L'idée, c'est de dire, le problème, c'est quand de dire, on s'est planté, ça marche vraiment pas.
Mm-hmm.
Non, c'est comment est-ce qu'on peut faire, sachant que les recherches démontrent que c'est un modèle qui fonctionne très bien, comment est-ce qu'on peut l'adapter à nous?
D'avoir l'esprit ouvert,
oui.
De rentrer avec un esprit ouvert,
oui.
de se permettre l'erreur et de, comme Mylène a dit, d'avoir toujours une mentalité de croissance en disant que on peut toujours faire mieux. Même si ça roule comme dans l'huile, on peut toujours faire mieux.
Et je pense qu'il faut toujours s'attendre à ce qu'on appelle en anglais « the implementation dip ». Je suis à l'aise avec ce que je fais, ça marche assez bien. Mais on me dit « OK, décloisonnement, c'est ça qu'il faut faire. » Je l'essaie, ma vie devient encore plus difficile. Je me pose la question « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? » Mais ça remonte par après. Absolument. Et là, on se dépasse. Alors, on n'est plus…
Comment t'appelles ça?
Implementation dip.
Implementation.
Alors, lorsqu'on implémente quelque chose,
oui.
Il va y avoir une descente, une petite baisse, afin de remonter et d'avoir encore plus de succès qu'on avait au début.
Moi, c'est comme une entreprise. C'est la même idée avec une entreprise.
Marius Bourgeois nous parle toujours d'être inconfortablement... Oui. Inconfortable à un moment donné, il faut savoir que tu sais ça va faire mal un petit peu un changement.
C'est un beau lien ça.
Ouais.
J'aime ça.
Ben oui, ouais. Mais pour finir par être confortablement inconfortable parce qu'on est habitué à changer puis à s'étirer à aller plus loin.
Mais en fait, je voulais juste ramener un petit peu, parce que nous autres, on a évidemment énormément d'expérience au niveau, au palier élémentaire. Est-ce que vous voyez le modèle de décloisonnement dans une école secondaire aussi? Qu'est-ce que vous pensez? Évidemment, on fait un petit peu d'extrapolation parce qu'on n'a jamais vraiment vécu, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui disent « Ah, ça c'est juste un modèle élémentaire », comment est-ce que vous voyez ça?
Bien, on sait que ça se fait parce que ça a été fait dans nos écoles secondaires aussi. On va pas vous cacher le fait que c'est plus compliqué parce que l'horaire est différent. Il y a beaucoup de différences. Mais c'est pas parce qu'un élève est en 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui n'a pas encore des besoins de base à combler.
Absolument.
Alors, je pense qu'il y a des façons de faire et il y a plusieurs modèles. Ça pourrait être dans, si c'est une grosse école, on pourrait avoir plusieurs profs, on pourrait avoir un département de mathématiques mm-hmm. qui va décider ensemble. On va décider quels élèves doivent aller oui. où, puis oui. on va trouver, tu sais, trois un fois besoin. Par oui. cycle, oui. quand est-ce qu'on pourrait, tu sais, utiliser 30 minutes de notre cours de mathématiques pour oui. faire du décloisonnement.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ou même chose, comme là, exactement le même modèle, mais en littératie.
Oui.
Mm-hmm. Ça pourrait être tous les élèves de 9e année qui s'arrêtent en même temps pour travailler sur des éléments X ou...
Oui. Puis on avait aussi, c'est avant l'enregistrement, on avait aussi parlé que ça peut, comme juste une autre suggestion, ça peut aussi se faire intermatière aussi. Comme si on a, comme par exemple les élèves de, par exemple, 10e année, ils ont 4 cours par jour. Fait que là, si ils ont le cours, premier cours, par exemple, si c'est en français, mais ces élèves-là, probablement, il y en a certains qui réussissent quand même, qui réussissent quand même bien, assez bien en français, mais qui a des lacunes en sciences. Fait que on pourrait faire un genre de décloisonnement intermatière aussi.
Oui.
Est-ce que ça a du sens ce que je dis?
Mais encore une fois, juste le rappel, parce que parfois les gens disent, oh, ben on va prendre 25 minutes de l'heure du dîner, puis on va aller chercher les élèves en difficulté et on va les inviter à venir. Oh. Ça, c'est pas le décloisonnement.
Non.
Leur enlever leur temps libre, leur temps avec leurs amis, leur temps de socialisation. Est-ce que c'est un mot, ça?
Oui.
Super! C'est un mot! ça, tu sais, leur enlever le gymnase, whatever, ça, c'est pas le décloisonnement. Non. Il faut que ce soit pour tous les élèves ouais. en
oui,
même temps.
Parce que c'est la même idée que de garder mon élève de deuxième année pendant la récré pour qu'il travaille sur des éléments parce que pendant le cours, il faisait rien. Ouais. Non.
Oui, juste
il y a
pour
besoin.
Dire, c'est ça, juste pour dire que parce que tu as mentionné éducation physique, moi, j'aurais aimé ça avoir un déplacement en éducation physique quand j'étais au secondaire parce que je réussissais dans tous mes cours, anglais, français, maths, économie, géographie, histoire. J'étais correcte dans tout, là, mais l'éducation physique était vraiment une galère.
Sais-tu quoi? C'est drôle qu'on parle tellement de l'anxiété des mathématiques, mais on parle pas de l'anxiété de l'éducation physique. Parce que je connais plein de monde qui avait une anxiété de...
Je prends le oui. premier numéro.
Oh, on en parlait l'autre jour.
Oui.
Que ce soit, tu sais, ton image de ton corps, puis se changer dans le vestiaire avec les...
Ça, c'est un autre épisode. Désolée que j'ai amené ce sujet-là, parce que quand tu avais dit en éducation physique, moi, j'aurais aimé ça avoir un décloisonnement. Oui, moi.
J'étais la première choisie pour l'équipe de décloisonnement.
Ouais, moi, il faut que j'apprenne. Ouais.
Fait que, je pense, est-ce qu'on a fait le tour, mesdames?
Oui.
Oui. Alors, ben merci beaucoup. Puis,
et bon décloisonnement.
Bon décloisonnement.
Décloisonnez-vous.
Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont
Jennifer Bansal-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Tout Pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.